Stéphane Dabranche, je suis à PAC comme chercheur associé et coordonnateur de la chaire science, de la Sciences Po, chaire Planète, Énergie, Climat. Alors, on m'a demandé midi sur quoi je travaillais. C'est une question un peu compliquée parce qu'à chaque fois que je réponds à cette question, je suis obligé de dire la chose suivante. Contrairement à la plupart de mes collègues sociologues ou politologues, je ne travaille pas sur une thématique particulière ou une sous-discipline des sciences politiques ou de la sociologie. Je me considère comme un climatologue et qui travaille en sciences politiques sur le climat, avec toutes les connexions qui sont associées à ça en matière d'énergie. Donc, je travaille sur les volets institutionnels, les dimensions sociales, politiques, comportementales, valeurs, attitudes, changements, etc., liés aux efforts de lutte contre le changement climatique et de sobriété et efficacité énergétique. D'accord. Il y a quand même des questions transversales à tout ça, et heureusement, parce que sinon je serais perdu et ce serait difficile de publier, et, etc., par la suite. Mes questions principales proviennent en fait d'une première étude à laquelle j'ai participé qui a été mentionnée ce matin. C'est le programme CDE, Concertation Décision Environnement. J'ai fait partie de la première phase dans laquelle on a fait une revue de littérature assez importante sur qu'est-ce qui s'est fait en France à l'étranger avec une barre. Avec l'accent que j'ai fait une petite comparaison avec le Québec, mais aussi dans la littérature anglo-saxonne. Alors, qu'est-ce qui s'est dit en SHS sur l'environnement? Et qu'est-ce qui ne s'est pas dit, hein, ces silences significatifs à la Foucault, pour revenir à une discussion de ce matin. Et on a constaté plusieurs choses. Et là-dessus, je rejoins ce que Bruno Villalba disait. C'est quand on regarde la plupart des recherches qui ont été faites dans ce programme, mais ça, c'est pas typique au programme. C'est caractéristique des SHS en général, avec des changements récents. Je reviendrai rapidement. Mais ces questions qui n'étaient pas posées, c'était notamment sur l'environnement, première chose. C'est-à-dire qu'il y avait un présupposé de base dans les rapports institutionnels et la plupart des articles en SHS qu'on a relevés, qui était la chose suivante. Si on conscientise et qu'on informe les populations sur les dangers de l'environnement, de la crise climatique, etc., ils changeront, modifieront leur comportement, leurs valeurs, etc., et tout rentrera dans l'ordre. Par définition, la société civile, d'autres termes qu'on peut utiliser qui s'en rapportent, elle est considérée comme étant écolo, elle est civile, quoi, dans le sens poli du terme. Moi, j'ai toujours émis des doutes là-dessus, simplement parce que quand je me promène dans mon quartier, je vois un paquet de gens qui attendent 10 minutes avec leur voiture qui roule. Voilà, à chaque fois, je me dis, tiens, le prix de l'énergie n'est pas assez cher encore. Je constate des gens qui continuent à fumer, malgré qu'ils savent très bien que ce n'est pas bon pour leur santé. Je continue à voir des gens qui ne recyclent pas directement. J'étais dans une copropriété, je ne sais même pas pourquoi je recyclais, mais c'est peut-être parce que j'ai une tête de cochon, mais ça ne servait à rien. Il y avait la moitié du recyclage dans la poubelle, la moitié de la poubelle dans le recyclage. C'était du 50% fait. La métro de Grenoble a fait une étude là-dessus. Donc moi, la question que je me posais, c'est pas... Au début, c'était de dire, un petit peu idéologiquement de ma part, j'admets, un petit peu critique, idéologiste, les gens ne comprenaient rien à l'environnement et puis ils sont même contre, etc., etc. Ensuite, bien entendu, vient ma formation de sciences politiques et de sociologue qui dit non, quelles sont les modalités et les conditions qui font que quelqu'un, une personne, un acteur, un individu va ou non adopter, à quel point, comment il va le modifier des nouvelles normes environnementales ou les rejeter par ailleurs. Donc en fait, ça c'est ma façon à moi de poser l'acceptabilité sociale. Je ne pose pas la question de l'acceptabilité, je pose la question de l'inacceptabilité. Mais pas dans le terme dichotomique complètement acceptable ou totalement inacceptable. Non. Pour chaque acteur ou individu, à différentes heures de la journée, il peut y avoir des raisons différentes de plus ou moins faire quelque chose. Quand ça fait notre affaire, quand on a soudainement 5 minutes de libre de plus, quand, etc., etc. Donc, ce questionnement de base, cette conclusion sur la revue de littérature, en fait, m'a amené à travailler donc sur le refus de l'éolien, sur le refus des barrages, sur l'urbanisme, Et l'urbanisme climatique, voire post-carbone à 2050, avec un projet NR, sur la mobilité à Lyon, pourquoi les gens, par exemple, ne veulent pas lâcher leur voiture, etc. Peut-être un élément important ici, c'est que quand on pose ce type de questions, comme je l'ai fait un petit peu à la négative, ça induit quand même des choses au niveau d'une méthode. Quand on regarde la plupart des eurobaromètres, les grandes enquêtes, INSEE, etc., on reçoit un coup de téléphone et bonjour, on aimerait vous poser des questions sur l'environnement et votre attitude à l'égard du blablabla. Là, tout soudainement, tout le monde devient très écolo. Il n'y a plus personne qui utilise la voiture, tout le monde recycle et devient végétarien. Mais quand on regarde les pratiques, quoi? Alors, méthodologiquement, j'ai essayé d'éviter ce biais en imposant un autre, j'assume. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait une enquête là, sur 650 personnes à Lyon et ensuite sur 950 sur la pollution de l'air avec la ZAPA à Grenoble. On n'a pas commencé à leur dire quelle est votre attitude sur l'environnement. On leur a dit, on aimerait connaître vos habitudes de mobilité, s'il vous plaît. On a continué avec la mobilité, on a demandé, on a posé des questions de représentation. Si la voiture est un animal, ce serait quel type, etc., etc. Et au bout, en troisième phase, on leur a dit, avant de vous quitter, on aimerait vous poser quelques questions sur l'environnement. Donc, ce ne sera pas une grande surprise aux gens qui sont ici, je le pense. Le niveau d'information correspond très peu au comportement. Petite stat, pour les gens sur la mobilité à Lyon, 81% des gens interviewés considéraient que le changement climatique était la crise du 21e siècle. 81% des gens considéraient également, pas tout à fait les mêmes, hein, mais considéraient que la meilleure façon pour un individu de combattre le changement climatique, c'était de cesser de prendre sa voiture. 56% des interviewés prenaient leur voiture tous les jours et pas de transport en commun. Et pourtant, 96% d'entre eux étaient à un arrêt de tram, de bus ou de métro à moins de 600 mètres. Donc là, il y a des contradictions. Moi, mon travail, c'est de ne pas dire vous avez une contradiction, vous la résolvez, vous arrêtez de prendre votre voiture. C'est de comprendre, alors pourquoi, dans ce cas, s'il y a un arrêt de tram pas loin, etc., vous ne prenez pas cette voiture. Donc, quelles sont les modalités du refus, en fait? Et là, j'ai arrêté d'être idéologue. Oh, c'est une étude un peu naïve, pas non, adolescente de ma part, je trouve, parfois. Il y a des sacrées bonnes raisons de ne pas prendre le tram ou le bus. Une femme avec 2-3 enfants qui va chez Carrefour ne peut pas revenir en tram avec 20 kilos de course dans chaque bras. Hein. Tout simplement. Et en fait, des questions, des raisons pragmatiques comme celle-là, il en existe beaucoup. Mais il y a aussi des raisons un petit peu futiles, selon mon point de vue à moi, qui franchement, vous attendez là, vous prenez 35 minutes en voiture pour aller au travail, il y a un train qui passe à côté de chez vous, ça vous prend 30 minutes et vous revenez en voiture et il n'y a pas d'arrêt entre les deux, mais vous prenez votre voiture quand même. On peut se poser la question de la pertinence de la voiture. Sauf qu'au niveau des représentations, la voiture, c'est quoi? Ma bulle personnelle. Le seul moment dans la journée où j'ai pas ma famille à côté de moi, j'ai pas mes collègues de bureau, je suis seul. Confort personnel n'est pas confort physique, le confort psychologique d'être seul dans sa voiture. On ne peut pas passer à côté non plus. Quand on essaye de développer des politiques publiques, la plupart de mes études ont des visées de préconisation, et ça on peut toujours venir aux questions d'épistémologie si vous voulez là-dessus, et d'objectivité, etc. N'empêche que ça a des implications assez importantes. Quand je fais un grand bilan de ces études, qu'est-ce que je remarque? Ensuite, je vais rentrer dans l'étude spécifique sur laquelle qu'on vient de terminer il n'y a pas longtemps. Bon, le niveau d'information et de connaissance de l'individu par rapport à son comportement, il y a des liens, mais ils sont flous, ténus, et parfois ils ne tiennent pas, et parfois ils tiennent. Première chose. Mais je pense aussi, de manière plus importante, c'est que on ne peut pas présumer que, bien entendu, tout le monde sait, on ne peut pas présumer qu'une population est homogène, ça tout le monde le sait. Mais on ne peut pas présumer, on ne devrait pas présumer non plus que l'ensemble des valeurs d'un seul individu soient parfaitement cohérentes et non contradictoires. Donc toute la question est, où est la priorité pour un individu quand il fait son choix de la mobilité au quotidien? Pourquoi cette priorité plutôt qu'une autre? là aussi, on peut aller chercher des informations avec des entretiens, etc., etc., et comprendre un peu mieux pourquoi. Alors, suite à ça, je me suis dit, on a un problème. On présume, dans la littérature sur le développement durable, que informer va amener à changement de connaissances, changement d'attitude, de représentation et changement de comportement. Donc, ça ne marche pas comme ça, dans mes études, mais en tout cas, je ne trouve pas. Et là, je me retrouve face à une demande de la part de prioritaires de la région Rhône-Alpes pour faire une évaluation de leur projet Famille à énergie positive. Alors, je vous parle un petit peu de ce projet et je vous renvoie. Et en fait, ce projet tend à, comment dire, à brouiller les cartes pour mon hypothèse de base. Pour une fois, je vois quelque chose qui marche plutôt bien avec l'hypothèse de développement durable telle qu'on la connaît habituellement. Plutôt bien, mais vous allez voir qu'il y a un gros bémol. Alors, Famille et énergie positive, c'est quoi? En fait, c'est une initiative, une ASOS prioritaire, mais avec des programmes qui existent dans d'autres pays européens, qui vise à réduire la consommation d'énergie à domicile. C'est en train de se développer maintenant avec industrie à énergie positive, administration ou services à énergie positive, etc. Mais l'origine est dans les familles, donc les ménages. Et l'idée, en fait, c'est de, par le biais de changements comportementaux, d'arriver à une réduction de la consommation énergétique. Il y a très peu de techniques, mais il y en a un petit peu. Première technique, en fait, ou outil technique, c'est la mesure, c'est un wattmètre. Par exemple, les gens apprennent que si on laisse un chargeur de téléphone branché sans le téléphone, ben, en fait, il consomme quand même. C'est de savoir aussi combien va consommer votre sèche-linge pendant qu'il tourne. Ça, c'est l'horreur totale. Franchement, j'y reviens. C'est le sèche-linge est la grande exception qui, en fait, contredit mon hypothèse de base. Donc, j'adore. Alors, comment ça fonctionne? On a un groupe de ménages qui se mettent ensemble. Au début, c'était un peu flou. Il n'y avait pas assez de participants. Donc, un chef de service ou un élu quelque part recevait l'ordre de faire partie du programme, ce qui n'est pas toujours bonne pour l'image parce que la personne qui reçoit l'ordre d'en faire partie n'est pas toujours enclin à faire ce type de programme, mais bon, on le fait quand même. Maintenant, ça roule tout seul. Il est très facile de trouver des partenariats. L'idée, c'est d'avoir entre 6 et 8 familles, ménages, regroupés ensemble. L'objectif formel, c'est d'atteindre le moins 8% de l'objectif de l'Union européenne. En un an. Moins d'un an, parce que le programme est sur 6 mois, en fait. Par le biais des changements comportementaux et quelques petites techniques auxquelles je vais revenir. Dans la réalité, c'est un concours. Au début, on appelait ça concours parce qu'en fait, les équipes font de la concurrence les uns contre les autres pour arriver au meilleur résultat possible. Bizarrement, les gestionnaires du programme ont trouvé que le concours est un peu trop agressif ou violent, alors que dans tous nos entretiens, les gens adoraient l'idée de concours. C'était absolument pas un problème. Mais bon, ils ont changé ça au mot défi, mais dans le langage quotidien de la gestion avec un capitaine d'équipe, on parle de concours. En général, les équipes dépassent le moins 8%. Donc, on fait mieux que l'objectif. Comment on fait? Alors, la modification des comportements est associée à une technique. C'est-à-dire, on regarde tout d'abord combien on a consommé l'année d'avant. Donc, une année de référence, on peut se comparer à l'année d'avant. La comparaison vient en jeu aussi avec comparaison avec les autres ménages, avec les autres équipes. Et maintenant, depuis 2012, une comparaison avec la consommation énergétique nationale. Là, je ne sais pas où ils tiennent les statistiques, ce n'est pas toujours facile à obtenir. Les outils techniques. Donc, il y a le wattomètre. Au début, quand on s'inscrit, il y a aussi les mousseurs. Donc, en fait, mousseur, on met ça sur les douches, on met ça sur les robinets. Et en fait, ça permet d'avoir une sensation d'eau qui coule, qui est plus importante, tout en diminuant le volume. La question de l'eau était parfois mal comprise. Dans les premières années, ce n'est pas l'eau en soi qui était comptée, c'était le chauffage lié à l'eau. Mais les gens appelaient ça l'eau. Alors, on avait des débats là, au sein d'une même famille avec une qui disait « Mais si, l'eau est comptabilisée dans le défi », puis l'autre qui disait « Mais non, il n'y a pas l'eau, c'est seulement l'énergie ». Donc, les familles qui étaient impliquées n'étaient pas toujours au clair là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, comme la raison, changer les ampoules pour mettre des ampoules basse consommation. Et surtout, on travaille sur le chauffage. Chauffage électrique, hein, surtout, pour aller travailler là où il y a la plus grosse consommation. Sèche-neige, très important, et tous les appareils électriques, et ensuite toutes les petites veilleuses. Donc, en fait, sur le site, c'est un autre outil, sur le site, il y a une centaine d'éco-gestes qu'on peut adopter qui visent à diminuer notre consommation énergétique. Le problème, c'est que 100 gestes, c'est énorme, et ils se sont rendus compte que c'était trop, que c'était comme ne pas en mettre 3, parce que les gens sont trop perdus, ils ne savent pas comment aller chercher les bons gestes, etc. Donc, le boulot des capitaines d'équipe, ça a été de traduire selon l'équipe qu'ils ont en face. Et là, il n'y a pas de méthode. C'est plus au pif. On essaie de comprendre ben, quel geste dire à telle famille, ben, travailler ça là-dessus, etc., etc. Ce qu'il fallait faire, c'est relever de compteur. Très important. Et là, il y a une règle formelle. C'est une fois par mois, on fait le relevé de compteur. Mais quand on parle aux gens, c'était toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les deux mois, ben, tous les jours ou... Donc là, c'était le fouillis total sur l'information, alors que l'information est très, très explicitement, très clairement dit, toc toc, mais débat là-dessus. Incroyablement, quand on a fait l'analyse de ce qui semblait être difficile comme geste adopté, parce que toute la question pour nous était là, quel geste adoptez-vous ou non? Pourquoi c'est difficile à adopter ou pas? Le relevé de compteur, donc, il prend environ 5 minutes. Ensuite, on prend les chiffres du compteur, on les met sur le site Internet. C'est à peine 10 minutes en tout, assez facile d'accès, facile à lire, a été considéré comme le geste le plus, je cite, chiant. On ne parle pas de la réduction de la consommation liée au chauffage, donc plutôt que d'avoir 21, on a 19, donc on a quand même frais. La plupart des gens, on n'est pas capable de vivre à 19, c'est pas vrai. Donc, on trouve ça trop froid, il faut trop s'habiller, on est chez nous, donc on a des difficultés. Mais c'est pas ça, pourtant les gens l'ont fait. Le geste le plus difficile à mettre en œuvre, ça a été le relevé de compteur. Sauf pour quelques personnes qui n'ont fait que le relevé de compteur et rien d'autre. Et qui ont continué à le faire même après la fin de leur participation. Ils voulaient savoir comment ça évoluait et ça leur suffisait, mais faire d'autres changements, ça ne les intéressait pas. Ils se demandaient pourquoi ils se sont inscrits. Alors, qui sont les gens qui se sont inscrits justement? On s'est dit « bande d'écolos ». Et en fait, les gens se sont inscrits quand on leur demande votre entourage, comment ils interprètent, comment ils voient votre participation quand ils viennent chez vous, qu'il faut mettre le pull et qu'il faut faire attention aux lumières, qu'il faut. Ils nous prennent alors les mots suivants, écolo pur, radicaux, même sept. On rentre dans famille énergie positive qui est quand même assez balisé, c'est pas une religion. Le mot Gaïa n'apparaît jamais. Aucun des entretiens, ben, n'empêche que l'entourage, c'est. Et dans l'analyse de nos entretiens, on a remarqué en fait, et ça, c'est une confirmation de toutes mes autres études, l'environnement n'est pas un facteur. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et je vais y revenir parce que c'est un petit peu le point clé, je trouve, de notre étude. Les comportements difficiles et les comportements faciles à adopter. En fait, les comportements les plus faciles à adopter, vous ne serez pas surpris, sont les comportements, les gestes qui demandent le moins d'efforts ou le moins de réflexion possible. Pensez-y. Vous vous inscrivez à Famille Énergie Positive, vous revenez chez vous. Soudainement, ce n'est plus simplement votre chez-vous dans lequel vous rentrez inconsciemment. Chaque geste que vous allez faire pendant le prochain mois au moins va devoir devenir conscient. Ça demande une observation de soi. J'allume la lumière de manière automatique, je vais faire d'autres trucs, j'y pense. Je me retourne, je repars, je referme, je reviens. Je me couche, je suis en train de m'endormir, veilleuse, la freebox, etc., etc., etc. Donc soit je reste au lit parce que j'en ai ras le bol, je suis trop fatigué, soit je me relève, j'y retourne. Ça, c'est la réalité, hein, les premiers mois. Une conscientisation non seulement de son environnement, mais une nouvelle appréhension de son environnement comme un complexe énergétique, complexe, dans lequel je suis en interaction, et ça c'est très important, et dans lequel je peux atteindre un nouveau niveau de maîtrise. J'apprends à maîtriser l'environnement dans lequel je vis. Alors, pas complètement, j'apprends, parce que 90-95% des gens qui font partie de FEP sont déjà dans une démarche comme celle-là. La plupart disent ne pas avoir appris beaucoup, mais ils ont appris des petits trucs, des petites astuces. la plupart. N'empêche que, même s'ils disent ne pas avoir pris beaucoup, la plupart vont dépasser le 8% de réduction. Donc, ils ont pris quelque part quand même. Ils n'ont peut-être pas pris sur de nouveaux gestes, mais surtout ceux qui ont l'habitude et qui le font depuis longtemps, apprennent à faire plus attention aux gestes et à les garder un peu plus longtemps. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux gestes acquis, quelques-uns. Alors, le problème avec FEB, c'est que la plupart des gens pensent à fermer leur lumière. La plupart. Alors, petite anecdote, on est en train de faire un entretien, ma collègue est en train de faire un entretien semi-directif. Ils viennent justement parler du poste de lumière. Et la femme en question, par ailleurs, c'est surtout les femmes qui sont celles qui s'inscrivent au défi, beaucoup plus que les hommes. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, les femmes s'inscrivent et c'est les femmes donc qui deviennent des pilotes dans la famille après. Pourquoi? Qui s'occupe du lavage, du séchage, du repassage et de la bouffe? Encore aujourd'hui, en grande majorité, c'est les femmes. Donc, ce n'est pas un accident si ce sont les femmes qui vont prendre action sur ces postes. Okay. Ce qui ne veut pas dire que les mecs font rien, mais les mecs vont plus s'attaquer à la technique. On est dans des schémas, mais hyper traditionnels là-dessus. Alors, la madame en question, on est en train de parler de la lumière, se lève, va répondre au téléphone, revient, elle a allumé la lumière dans l'autre chambre, revient, s'assoit et dit « Ben, je ferme toujours la lumière quand je sors d'une pièce. » La lumière est encore allumée. Donc ça, pour nous, on a trouvé ça intéressant, plutôt rigolo, mais ça nous a donné un biais par rapport à notre étude. Tout ce qu'on leur demandait allait être surévalué dans ce sens positif. Et on n'avait pas beaucoup de moyens de savoir si oui ou non, quel est le niveau de surévaluation de mes efforts. Sauf, bien entendu, les relevés d'énergie, de consommation, mais ça ne dit pas sur quel poste, malheureusement. On n'était pas dans la domotique Greenlist, Linkies, etc. On était vraiment consommation générale. Donc là, ça manquait un peu de... Mais ça, on ne pouvait rien y faire, nous, en tant que sociologue. Comportement donc facile, pas toujours super efficace, parce qu'éteindre la lumière un peu plus souvent, ce n'est pas un gros gain énergétique à la fin de l'année. Hein. En revanche, le chauffage, vous diminuez 2 degrés, vous avez économisé 7% sur votre facture. Et là, de manière surprenante, je trouve, la plupart des gens étaient prêts à descendre à 19. Pas en bas. D'ailleurs, les quelques ménages qui sont descendus en bas de 19 degrés ont été jugés de manière un peu presque méchante par leurs collègues, même de la même équipe, même si c'est bon pour l'équipe, par ailleurs. Alors, monsieur de malade, tu dis n'importe quoi, il faut quand même pas exagérer, il y a une zone de confort à respecter, quoi. Ça, c'était assez important. La douche. Il ne faut pas négocier avec la douche. Ce n'est pas négociable, surtout pas avec les ados. Une douche, c'est au minimum 20 minutes et pas moins. À tel point que les parents avec des ados, il n'y en a pas un qui a insisté. Hein. Pas un. Ils abandonnent tous. C'est déjà une période assez difficile, on s'est fait dire. On ne commence pas à exagérer en rajoutant une couche. Surtout qu'ils sont d'accord pour mettre un pull toute la journée. Bon, ben OK. Voilà, c'est fini, quoi. Le geste qui, selon moi, pour revenir à ça, est adopté et qui est donc contraire à beaucoup de mes conclusions, c'est le sèche-neige. Parce que dès que vous arrêtez le sèche-neige, vous faites quoi à la place? Vous étendez le neige. Et ça prend beaucoup plus de temps. On ne fait pas juste... Oui, je sais, la plupart des fonds vont probablement faire ça avant de le mettre dedans. Moi, je mets, je le fous dedans. N'empêche que c'est beaucoup plus long quand je l'étends que quand je le fous dedans. Mais là, le gain énergétique, et c'est là que la connaissance et l'information a eu un impact, il n'y a rien à faire, je ne peux pas trouver d'autres explications. Donc là, ça va un petit peu au contraire à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que le sèche-neige est tellement consommateur, et je sais ça, que là, ce n'est pas acceptable dans une démarche comme celle-ci. Et donc, beaucoup vont arrêter d'utiliser le sèche-neige complètement pendant FEB, et certains vont même se débarrasser de leur sèche-neige après FEB. Autre petite implication, pour ceux qui sentent qu'ils sont allés au bout du processus, qui ont vraiment épuisé tout ce qu'ils pouvaient faire à la maison, il y en a qui restent là, mais il y a une certaine partie qui veut maintenant s'intéresser à autre chose, qui passe à la consommation responsable, donc qu'est-ce qu'on achète quand on va chez Caro, ou la mobilité. Les deux grands postes sur lesquels les familles qui veulent continuer dans cette démarche-là sont impliquées. Et quand je dis « veut continuer. Alors pourquoi ils veulent continuer? On se retrouve avec deux grands groupes, des catégories. On retrouve bien entendu des arguments qu'on retrouve ailleurs. Réduire la facture énergétique, ça va coûter moins cher. Mais quand on regarde ce qu'on sauve à la fin de l'année, je peux vous dire que c'est pas avec ça qu'on se paye un voyage. Ça paye quelques séances au cinéma pour la famille, mais vu le prix du ciné, pas tant que ça non plus. Franchement. Sauf pour certains qui avaient une maison de 10 pièces, ils s'en servaient seulement 3, mais ils chauffaient tout. Là, effectivement, le gain énergétique et sur la facture était très important. Et pour la plupart d'entre nous, surtout en appartement, le gain énergétique, facture en tout cas, monétaire, il y en a un, mais est-ce que c'est suffisant pour dire que je vais mettre un pull 4 mois par année après? Je pense pas. Et pour eux non plus, en fait. Alors, deuxième hypothèse, des écolos qui veulent absolument sauver la planète. Non. L'argument écologique est, pour la plupart, non mentionné dans les entretiens. Rien, c'est un silence. C'est pas que c'est pas important, c'est juste que c'est pas de ça qu'on parle en ce moment. Voilà. Pour ceux qui le mentionnent, ça vient toujours en second, comme une justification. Ah oui, mais c'est super environnement aussi. Alors, dans les entretiens qu'on a fait, on avait consigne de ne pas mentionner l'environnement. Nous, explicitement, sauf si l'enquêté le faisait. Donc, dans certains cas, il le faisait spontanément, c'était rare. La plupart des gens le font, en fait, parce que... Alors, il y a un premier groupe, et là, on revient un petit peu à l'idée d'idéologie de ce matin. Le premier groupe a un système de valeurs et de croyances relatives à la société de surconsommation. Ça s'approche d'une idéologie parce que ce système, ces différentes valeurs et principes, tend à cadrer la vision du monde et à donner des guides de comportement. On essaye de fermer ce fossé entre ce que je crois être une mauvaise société et mes actions et mes comportements pour ne pas contribuer à ça. Et donc, l'inscription à faire, c'est juste une autre manière de continuer ce processus-là de correspondance entre idéaux, et dans ce cas-ci, idéologie, sur la société de consommation. Certains visent même l'autarcie, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas, et le plus possible, s'il vous plaît. Cas typique des familles qu'on a interviewées, ce sont des classes moyennes sup, un bon niveau d'éducation, et qui proviennent pour beaucoup d'une famille pauvre, qui a eu des problèmes financiers. Beaucoup, en fait, on constate une évolution vers le haut dans les classes socio-économiques. Mais ils ont encore cette... On parlait de simplicité volontaire plus tôt, là, on parle de frugalité. Il y a vraiment une culture familiale de la frugalité qui est transportée vers l'âge adulte et diffusée, transmise aux enfants. Pourquoi dépenser ou consommer quelque chose quand on n'en a pas besoin? Il n'y a pas d'environnement là-dedans. Ce n'est pas nécessairement lié à une critique de la surconsommation. Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. C'est juste une question de transmettre des valeurs familiales. Dernier groupe, très important, je trouve. La maîtrise de l'environnement, je le disais, c'est une partie des raisons pour lesquelles on veut s'inscrire là-dedans. Mais il y a quelque chose de plus subtil chez nombre... je dirais peut-être un bon tiers des participants qu'on a interviewés, c'est que maîtriser son environnement, c'est se prouver à soi-même qu'on peut se maîtriser soi-même. L'exercice fait être est un exercice sur soi, sur ses propres comportements, sur sa capacité à agir, sur sa capacité à se contrôler. On est vraiment là dans des dimensions très psychologiques. Finalement, quand on regarde tous ces éléments et ces facteurs, on est arrivé à l'idée suivante. Les gens qui participent à FEP, et juste en parenthèse, c'est seulement à partir de 2012 qu'on a eu des ménages précaires. Ce qui veut dire qu'une partie de mes conclusions ne s'appliqueront pas à ce nouveau groupe. Il faudra faire une autre étude sur les précaires. Parce que les motivations, sauf la motivation de la maîtrise de son logis, là on est à peu près sûr que ça va être très important, vont être un petit peu différentes, et peut-être les facteurs aussi des moteurs d'action. Mais quand on regarde tout ça, mais c'est justement, ça me disait 5 minutes, c'est parfait. C'est qu'on se retrouve avec des individus qui ont des carrières énergétiques. Depuis l'enfance, l'énergie est une question. Ils ont des moments, des périodes de va-et-vient, on sort un peu de ces préoccupations-là, mais ils reviennent tout le temps. Certains vont même, en fait, travailler là-dessus. On a des architectes qui ont travaillé sur l'énergie des bâtiments. On a une conseillère en énergie qui, d'ailleurs, a abandonné le programme parce que ça n'allait pas assez loin, assez vite pour elle et que les conseils techniques n'étaient pas assez bons. On a des gens aussi, très importants, qui vont, s'ils ne le font pas dans leur travail, vont faire un travail un peu associatif sur la précarité. Ils ont déjà entendu les mots précarité énergétique et qui, depuis toujours, font attention à ce qu'ils font à la maison et à ce qu'ils achètent. Donc, il y a vraiment un parcours. Ce qui se pose problème dans un cadre de développement durable et de diffusion. La plupart des gens ne sont peut-être pas dans ce type de parcours très spécifique. Donc, un des objectifs de FEP, c'est de se diffuser vers d'autres groupes de la population. Je ne sais pas trop comment, sauf pour les précaires, on commence à comprendre comment leur parler. Parce qu'un précaire, quand on leur dit « vous allez diminuer votre consommation énergétique de 8%, il se dit « je vais encore me serrer la ceinture, ça peine son chemin. » On n'est plus dans le même discours, on n'est plus dans la même logique. Donc, toute la communication, la façon de sensibiliser, les actions proposées, préconisées, vont devoir s'adapter à ce nouveau groupe. Alors, retour sur ces implications pour moi sur les grandes questions sur le développement durable et participatif. On a quand même ici quelques indications comme quoi l'information peut parfois avoir un effet sur les comportements. Mais on a là un groupe très spécifique qui ne demande que ça. D'accord? Ça, c'est très important. Ils ne demandent qu'à. Il y a même des gens qui s'inscrivent en étant sûrs qu'ils n'apprendront rien, mais ils lancent un défi quand même au défi. Allez, venez, apprenez-moi quelque chose si vous êtes capable. Et ce n'est pas seulement 2-3, il y en a plusieurs quand même. Donc ça, je pense que c'est une attitude intéressante. En même temps, quoique les implications environnementales d'une diminution de la consommation énergétique elle est objectivement évidente, l'argument environnemental, l'argument écologique ou climatique n'est pas important pour ces gens. Ça ne fait pas partie de l'équation. Ou c'est secondaire, at best. Je me souviens pas d'un seul interviewé, d'un seul enquêté qui a mentionné, qui a fait plus qu'une phrase sur le changement climatique, sur des entretiens d'une heure alors qu'on parlait d'énergie. C'est quand même fort dans un contexte social où on en parle quand même pas mal. Suite de tout ça, c'est d'aller voir un petit peu justement qu'est-ce qui se passe avec les ménages précaires. Là-dessus, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être important. J'en parlais à Bruno juste avant, qui disait que avec les ménages précaires, on ne peut pas diminuer la consommation d'énergie à moins d'avoir des réseaux sociaux très denses qui permettent en fait de compenser. D'accord? De faire des échanges. Tu fais les courses aujourd'hui, je fais le ménage demain ou quelque chose comme ça. Ce qui est un peu bizarre, c'est que les gens qui en ont parlé, ce sont des gens avec des réseaux sociaux très actifs, intenses. Et pourtant, un des facteurs clés de leur raison pour laquelle ils s'inscrivent au tout début, c'est de trouver de la convivialité. On veut trouver des gens qui pensent comme nous. Et pourtant, ce ne sont pas des victimes d'anomie du tout, là. Mais ils le cherchent. Deuxième truc bizarre qu'on n'a jamais expliqué, ils trouvent cette convivialité, des gens qui pensent comme eux. Ils s'inscrivent, ils participent. Dès que la famille énergie positive est terminée pour eux, ils ne se revoient plus jamais. Les liens noués durant l'expérience faite ne continuent pas dans le temps. Et pourtant, c'est ce qu'ils recherchaient. Et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas été capable de trouver d'éléments là-dessus.